Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation. Voici tout d'abord ce qui fera lien avec les émissions précédentes. À l'article de la mort, Hamlet prononce cette courte phrase « The rest is silence ». Le reste est silence. La polysémie des termes, pourtant si fréquemment soulignée dans l'édition Robert Laffont, ne mentionne pas cette fois un autre sens du mot anglais « rest » qui signifie aussi « repos ». Et puisque le choix se porte aujourd'hui sur la poésie de Thierry Metz, c'est cette phrase qui me vient à l'esprit à son propos et qui me hante. Comme si une nécessaire pudeur m'obligeait au silence, comme si chacun de ses poèmes me réduisait au silence. Mais cette réduction ne rapetisse pas, elle grandit celui en qui elle s'opère. C'est sans doute pour cela que l'édition des poèmes de Thierry Metz dans la collection NRF Poésie Gallimard est préfacée et postfacée par deux écrivains poètes, Isabelle Lévesque et Éric Vuillard. Éric Vuillard utilisera l'expression « la plaine alluviale de la vie quotidienne ». Pour souligner l'importance du métier de Thierry Metz, il est manœuvre, maçon, et si l'on voulait inventorier son lexique, nombreux seraient les poèmes qui brassent les termes « mur »,« main », »,« parole », »,« écrire », »,« livre », »,« mot ». Au seuil du quatrième livre des Contemplations, Victor Hugo avait forgé un poème du silence en une seule ligne de point de suspension placée au-dessous d'une simple date, 4 septembre 1843. C'était, comme on sait, le jour de la noyade de sa fille Léopoldine. La poésie de Thierry Metz s'articule autour d'une autre date, le 20 mai 1988. Son fils Vincent, âgé de 8 ans, est renversé et tué par une voiture sur la route qui passe près de leur maison. Comme le précise Isabelle Lévesque, en 1988, le manuscrit du premier recueil de poèmes de Thierry Metz « Sur la table inventée » obtient le prix Hilary Voronca du nom de ce poète résistant d'origine roumaine qui se suicida le 4 avril 1946 à l'âge de 42 ans. Lors de la parution en 1989, le livre porte la mention « Prix Hilary Voronca offert à Vincent ». Moins de 10 ans plus tard, le 16 avril 1997, âgé de 40 ans, Thierry Metz se suicide dans son appartement de Bordeaux. Isabelle Lévesque intitulera sa préface « Le poème inachevable », reprenant ainsi un fragment de texte du poète lui-même pour conclure, je la cite, « De livre en livre, le poète avance sur un chemin fait d'essais et de refus qui n'ignore ni faille ni brèche, avec toujours la volonté de construire autant que de chercher et d'atteindre l'inatteignable. » Et Éric Vuillard écrira de son côté dans la postface, je le cite aussi, « Il y a une solitude charnelle dans sa poésie, fondatrice, et aussi une fraternité, indicible peut-être, mais irrévocable. La poésie réduit et accentue la séparation entre le monde et nous. Nul ne parvient à décrire le monde. La poésie survient devant ce qui se refuse, lorsque le langage naturel échoue. La poésie de Thierry Metz se situe au plus près de cette faille, non pas qu'il cherche à pénétrer les plis des choses ou du langage, à s'évanouir dans les nuances, à traduire la totalité d'une expérience. La poésie de Thierry Metz fouille ce qui est le plus clair. Et ce qui est le plus clair est souvent le plus énigmatique. Sa poésie n'est donc pas faite d'allusions, de suggestions musées, clapies. Tout est là, devant nous, et nous le reconnaissons, approfondi par soi-même, délié, ouvert. La poésie de Thierry Metz est à la fois dense et profonde, matérielle. Les mains blessées par le travail, le froissement des draps, un rayon de soleil, le vent qui tombe, le poids des choses, la pointe aiguë de la douleur, tout cela s'inscrit dans la langue selon une double comptabilité renvoyant simultanément aux objets réels dont la poésie de Thierry Metz médite la densité, les formes, le souffle et à une profondeur liée à leur matérialité, non pas une dimension supplémentaire transcendante qui viendrait s'ajouter et dépasser leur identité corporelle, mais une puissance inscrite dans leur réalité même. L'écriture aggrave le monde. L'écriture aggrave le monde. C'est cette gravité que je voudrais faire entendre en laissant leur place au silence entre les textes, très court le plus souvent, sans jamais aucun titre, excepté ceux des recueils, d'où je les tire et dans l'ordre de leurs années de publication. Voici les titres des recueils. Sur la table inventée, Entre l'eau et la feuille, Lettre à la bien-aimée, Le drap déplié, Tel que c'est écrit, et enfin Carnet d'Orphée et autres poèmes. Demande au veilleur là-haut, sur sa branche, parmi les lucioles, dans la braise des mots, dans le presque rien d'écrire, il sait, lui, l'attardé, que son aujourd'hui, dorsale de l'ailleurs, n'a pas d'autre horizon que sa langue, où l'éclair se dénude. Où est-il le frère alchimique, homme du premier, du dernier repas, rieur à la voix écarlate, les mains en éclats, sur la table inventée, le visage dans la flamme, comme une aube, comme une eau qui se retire dans la merveille, comme une nuit qui se consume dans l'obscur de la craie. Son visage, comme un oiseau simplifié. Peu de mots pour te rejoindre, mais écoute. Si tu n'as rien à dire à l'étourneau, au jet, pourquoi discuter avec la sentinelle qui a fait son nid dans ton livre? Inutile de parler, creuse, petite voix, le rouge-gorge te regarde, le merle, caché sous une feuille, derrière ce qui est dit. L'homme est entré dans le village avec les premières étoiles. Il cherche un endroit pour dormir, mais tout est fermé. Une ruelle le conduit à un lavoir circulaire protégé par un auvent. « C'est suffisant, dit-il, je vais dormir ici. » Il s'allonge sur une pierre, près du bassin à ciel ouvert, le visage tourné vers la petite ours. Mais à l'instant de s'endormir, il devine une présence, puis plusieurs autour de lui, retirés dans un cercle obscur. Il cherche, mais engourdi par un souffle tiède, il s'assoupit. Deux autres textes tirés du recueil Sur la table inventée. L'ange ne reviendra pas, mais son visage est partout dans l'arbre. Et tout ce qui vit à proximité est tourné vers son absence et cherche. Regarde comme il tourne devant nous, haut sur son axe, guettant, éclairant l'épervier de son nom parmi les mille petites lampes musiciennes, son visage m'attend dans le dernier accord, dissonance limpide, car le Dieu qui brasse mes ailes œuvre un silence noir dans les silences du livre. Un très court texte extrait du recueil « Entre l'eau et la feuille ». Je vais, par signes espacés, avec la matière noire du livre, retourner la langue. Et à présent, toute une série de textes extraits du recueil « Lettre à la bien-aimée ». Être où le mot est une chambre, lui voler sa blancheur, son dallage, sa table. Où peut-on imaginer que je sois avec mes mains de maçon ? Là, précis comme l'allège d'un mur, mais toujours dans la chambre où chaque soir je t'allume un petit cahier avec des yeux de merle. J'entre ainsi, où tu es, avec mon métier, un peu d'argent, un crayon, d'autres aussi. On les voyait tout à l'heure. Non pour exister, mais pour être là, en passant. Seul, contre son âme, un homme ne pèse pas lourd. Où je suis, il n'est pas facile de t'écrire, d'entrer avec toi dans le cahier pour le refermer, pour y être seul avec toi, ne serait-ce qu'un instant. Chambre collective à 5 lits, mais nous sommes souvent davantage. Là, il n'y a pas d'intérieur, mais des armoires et l'ennui de ces murs verts. Où aller s'il suffisait d'aller ? Le mieux peut-être est de rester là où nous sommes et resterons inconnus, comme ceux qui n'attendent rien sous un platane. Ta lettre est ici, où je n'entends plus que des mots, où je n'ai que ce sel. Nous traversons chaque jour le regard de l'ange, mais c'est plus loin, en marchant, que nous apercevons, sans demander pourquoi, l'urgence de sa quête, les quelques vestiges de l'être, bois sec, pierre qui borne un feu, ces quelques étoiles qui nous font lever la tête. Dès que la main s'est retirée d'une écriture, en sachant qu'il faudra revenir, il faudrait sortir, croiser un regard, s'étonner d'un jardin, ou manger un fruit, ne laisser dans la main que le noyau du jour, que rien n'abdique. Mais quelque chose voudrait nous retenir de violent, et qui voudrait nous le crier, nous le lancer au visage. Que faire ? Pour contrer ce qui, dans le réel, ne cesse d'être terrible et qui se heurte seulement à des mots. Aller vers cet homme que je croise et qui n'a l'air de rien, celui-là qui m'apporte son visage, quelques traits noirs, toujours repris, toujours interrompus. courte éclaircie du passant pour recommencer jusqu'à la mort. Quelquefois, tu ne sais plus qui tu es ni où tu vas. Tu meubles la journée comme on range des caisses. Mais pas de petit bois au bout pour faire un brin de sieste ou y déposer une fatigue. Rien que l'instant et son vide, son incohérence. Toute l'intégralité de l'inutile. Du pourquoi. Je sais que tu penses au petit, à sa mort, qu'il n'y a plus que quelques gestes dans un grenier de chagrin. Tu dors, sommeil qui va toucher le fond, qui me ramène une algue. Sommeil que tu traverses comme une rivière. Plus rien que l'eau, et seul dans ta source, ma main, tu dors, le dos rond et lisse, livré à ta chevelure, au bouillonnement de ton rêve. Nuit où tu me laisses ton repos comme une barque. Pour aller où je veux. Ta présence est mon seul présent. Je ne sortirai pas de cette source. Tout ne va pas toujours bien entre nous, quelquefois mal. Nous n'avons plus la même voix, plus de patience. Nous allons chercher ce qui pourrait nous séparer et qui nous sépare quelques heures. Des mots qui vont toucher un fond, un endormissement, nécessaires à une continuité. Des mots qui nous sauvent, que la souffrance ou l'habitude nous cachait. Des mots qui nous privent l'un de l'autre, un instant, pour franchir une frontière. Je ne dis rien, je te cueille un épi de lavande, je prends ta main sous la pluie. On regarde ce bout de jardin, les acacias de la colline, c'est tout. De ton regard, je ramène une constellation. Une petite voix que nous connaissons bien nous rend visite le soir, une voix d'enfant qui nous raconte ce qui se passe là-bas, comment sont les gens, ce qu'on y trouve. Lentement, il nous berce, nous accompagne jusqu'au sommeil, nous ferme les yeux. Non, rien de cela, qu'une inépuisable, inexorable absence. Rien qu'une mort et un nom, Vincent. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre quatre morceaux extraits des œuvres de Chopin. Tout d'abord, l'Andante Spianato, interprété par Kate Liu. Puis, la romance, le Larghetto du concerto numéro 1, interprété au piano par Christian Zimmermann. Ensuite, le Nocturne en ut dièse mineur, interprété par Bruce Liu. Et enfin, interprété par le pianiste polonais Jan Lisiecki, le Nocturne opus 9, numéro 3. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.